Aujourd'hui, on reprend nos rencontres de vendredi soir par la conférence de Père Hildo Bos qui vient d'Hollande pour nous parler de l'amour. Je nous souhaite tous une bonne conférence et une bonne rencontre. Un bon début de l'année scolaire. Oui.
Merci. Merci à tous de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir de revenir. Je suis venu pour le début de votre travail et me revoilà. En même temps, je dois avouer que quand j'ai reçu le coup de fil pour m'inviter à parler ici de l'amour, ça a été un petit peu terrifiant pour moi. Parce que c'est un thème assez énorme et terrifiant d'une certaine manière. Et en même temps, je me suis rendu compte à quel point c'est providentiel que ça se passe comme ça. À l'origine, j'avais l'intention de faire la conférence hier soir. Finalement, c'était mieux ce soir. Et vous savez probablement qu'aujourd'hui, nous fêtons la mémoire de Saint Jean le théologien, l'apôtre de l'amour par excellence. Si ceux qui étaient à l'église ce matin ont pu entendre un des textes les plus forts qui existent dans la Bible sur l'amour. Et en plus, pour moi personnellement, c'est une date qui est très étroitement liée à l'amour, parce qu'il y a 20 ans exactement, où le père Boris Bobrinskoy m'a proposé une bourse pour faire mes études à Paris, à Saint-Serge, et c'était l'occasion que je cherchais pour aller à Paris. Et donc le même soir, j'ai proposé à ma future femme de se marier, parce que j'avais trouvé l'occasion. Donc voilà, ça fait 20 ans aujourd'hui même que les deux choses pour moi se sont réunies, l'amour de Dieu par la théologie et l'amour pour ma femme. Donc je pense que c'est très beau que ça se passe aujourd'hui. Pourquoi je trouvais ça terrifiant de parler de l'amour? Déjà parce que comme chaque chrétien, je suis très conscient de mon manque d'amour, mais aussi parce que l'amour n'est pas seulement une émotion, n'est pas seulement quelque chose que nous ressentons. Quand aujourd'hui à l'église nous avons entendu l'épître de Saint Jean le théologien qui dit Dieu est amour, ça veut dire que l'amour est quelque chose qui concerne le mystère même de l'essence de Dieu. Et quand nous parlons des mystères de l'essence de Dieu, nous sommes en face de quelque chose d'énorme, quelque chose d'incompréhensible, quelque chose comme une boîte noire autour de laquelle nous pouvons marcher, mais dans laquelle nous ne pouvons pas complètement rentrer. Vous savez que dans le canon eucharistique, nous disons que Dieu est incompréhensible, invisible, insaisissable. Et c'est quelque chose qui nous échappe, que nous ne pouvons pas exprimer. Je me souviens toujours de ce que Père Boris Bobrinskoy me racontait de ses jeunes années d'études, quand son professeur de dogmatique, le Père Cyprien Kern, disait aux étudiants au début de l'année scolaire: est-ce que vous êtes sûr que vous voulez faire ça? Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez rentrer dans ces mystères-là? Et de façon assez dramatique, il se voilait la face avec ses grandes manches de sa race, pour rappeler aux étudiants qu'ils n'allaient pas juste étudier une science quelconque, mais qu'ils allaient rentrer dans quelque chose autour de quoi nous pouvons nous déplacer, mais c'est quelque chose quand même qui reste un mystère terrible. Et en même temps, aujourd'hui, dans l'épître de Saint Jean, nous avons bien entendu que Dieu communique quelque chose de cet amour à nous. Oui, dans son essence, Dieu est amour, même si nous ne comprenons pas qu'est-ce que ça veut dire exactement. Et en même temps, il est clair que le Christ lui-même nous donne la vocation d'aimer aussi. Donc, il y a quelque chose que nous pouvons cerner et que chacun de nous est appelé à vivre, à découvrir, à cerner quelque chose. Là aussi, je pense qu'il n'y a pas de différence entre nous chrétiens, théologiens, pas théologiens, laïcs, clergés. Nous sommes tous appelés à vivre cet amour, et je pense que ce soir je vais essayer de donner quelques réflexions, quelques pistes, et ensuite je serai très content d'en parler ensemble, parce que nous sommes tous dans la même dynamique. Alors qu'est-ce que nous pouvons dire de l'amour sur la base de l'Écriture, sur la base des pères de l'Église? La première chose qui semble très évidente et quand même très importante, c'est que l'amour présuppose une relation. L'amour est relationnel. L'amour n'existe pas en dehors d'une relation. Et là, nous voyons déjà le caractère unique de la foi chrétienne, où nous ne croyons pas en un Dieu fermé sur lui-même, comme dans certaines formes de monothéisme, inatteignable, complètement découpé de tout, le tout autre. Nous ne croyons non plus en un Dieu qui est tellement éphémère qu'il se multiplie en une espèce de divinité omniprésente comme dans les religions orientales. Nous croyons en un Dieu en trois personnes et nous savons pertinemment qu'entre ces trois personnes de la Trinité, il y a un lien d'amour, un lien existentiel d'amour, pas seulement, de nouveau, l'amour, comme nous disons souvent, l'amour comme un sentiment romantique, donc quelque chose de très beau et très chaleureux, non. Un lien existentiel, un lien dogmatique, si on peut se dire, qui a quelque chose en commun avec l'amour, le lien de l'amour qui est aussi donné aux apôtres. Et nous voyons, si nous voyons le développement du rapport entre Dieu et la création, nous voyons que là aussi, il y a quelque chose de relationnel. Dieu décide de ne pas rester dans cette relation d'amour de la Trinité. Dieu va placer quelque chose en face de lui. Il va créer. Il va créer un monde. Il va créer l'homme. Il va mettre cet homme face à lui. Ça va sortir de lui. Et pour l'amour, il faut une relation. Il faut une relation personnel. Nous voyons que Adam est placé dans ce paradis, il reçoit le nom, et qu'ensuite Adam est appelé à nommer les êtres, et finalement il va nommer sa femme, pour que chaque chose et chaque personne ait un nom, une identité différente. Et il y a un très beau texte de Saint Macaire le Grand qui dit que dans le paradis, chacun sera revêtu de la gloire de Dieu d'une manière propre. Et Pierre, il sera revêtu de la gloire de Dieu comme Pierre. Et Paul, il sera dans la gloire de Dieu comme Paul. Ce n'est pas comme dans certains mystiques orientaux que nous allons tous disparaître dans le mer de l'être suprême, que nous allons être absorbés par la divinité. Chacun, dans la gloire de Dieu, restera quelqu'un face à Dieu. Et ce face-à-face est extrêmement important pour rentrer dans le mystère de l'amour. On peut aimer uniquement en tant que personne. Dieu est amour. Dieu a donné son image à l'homme. Et donc, l'homme est aussi appelé à ce même rapport de face à face. Avant tout, bien sûr, avec Dieu, mais aussi avec l'autre. Il y a un des théologiens modernes qui était très inspiré par Vladimir Lossky, c'est Monsieur Jean Zizioulas qui oppose en quelque sorte deux façons d'être. La façon d'être de la personne qui est constituée dans le fait d'être capable d'être dans le rapport, dans la relation, et l'individu qui est dans sa autosuffisance, qui est découpé des autres, et dont l'humanité, finalement, n'achève pas sa pleine vocation. L'être humain est appelé à être en relation. Et là, il y a deux très beaux textes que nous connaissons, je pense, tous sur l'amour. Il y a le chapitre 13 de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, l'hymne de l'amour, où il dit à la fin que aujourd'hui, ma façon de voir, elle est trouble, comme si je voyais dans un miroir trouble. Mais alors, et il parle du moment de la deuxième venue du Christ, de la parousie, au moment où nous serons vraiment face à face de Dieu, là, je connaîtrai comme je suis connu par Dieu. Donc là, ma connaissance de Dieu, elle est encore partielle, elle est encore... Et là, quand je serai face à face de Dieu, je le connaîtrai comme il me connaît. Et j'oserais dire qu'on peut même dire la même chose de l'amour, que notre amour aujourd'hui est imparfaite, et peut-être face à face de Dieu, nous pourrons l'aimer comme nous sommes aimés par lui. Nous le voyons aussi tout de suite, la difficulté pour chaque être humain de vraiment aimer, parce que souvent nous sommes enfermés en nous-mêmes. L'amour, l'amour pour Dieu, l'amour pour l'autre présuppose que je sorte de moi-même, que j'aille vers l'autre. Et il y a beaucoup d'obstacles dans notre vie pour faire ce pas. La crainte, le monde qui nous entoure et le monde qui nous crie de tous les côtés, c'est toi le centre du monde, c'est toi qui as droit à tout, c'est toi qui peux tout prendre, tout recevoir, tu es bien chez toi. Parfois, il existe des limitations presque pathologiques. Nous savons par des études que si un enfant, dans sa petite enfance, n'a pas appris à concevoir la mère comme quelqu'un d'autre, vous savez, dans la petite enfance, au début, le bébé va percevoir la mère comme objet, comme une source de nourriture, comme une source de bien-être. C'est un rapport extrêmement violent parfois. Les bébés peuvent être extrêmement violents, impitoyables avec les mères. Et assez vite après, il y a un deuxième rapport qui va coexister, qui est le rapport avec la mère comme une présence, comme un environnement aimant et finalement comme une personne. Et le bébé va se rendre compte que son comportement impitoyable afflige la mère. Et si le développement de la personne se fait normalement, finalement le bébé va apprendre à prendre pitié de la mère, à rentrer dans le face-à-face, et que c'est cette capacité-là qui a ensuite déterminé la capacité de la personne de rentrer dans le face-à-face avec les autres. Et si ça ne se passe pas bien, et je pense que vous connaissez tous des cas, des gens qui finalement n'arrivent pas à faire le face-à-face, qui pouvaient concevoir chacun comme une continuation de soi-même, de ses intérêts, de ses dangers, de ses peurs, etc., qui finalement les autres ne sont pas une véritable altérité, c'est quelqu'un qui joue un rôle dans ma pièce de théâtre, dans mon film. Et ces gens-là, on peut dire, sont handicapés dans la capacité d'aimer, de compatir. Si on va très loin, on rentre dans le spectre de l'autisme, des gens qui sont tout simplement médicalement incapables de s'identifier à l'autre. Voilà, ce sont des choses que nous connaissons, des handicaps qui existent. Mais il ne suffit pas pour l'amour de juste d'être capable de se mettre dans le face-à-face. Oui, c'est important. D'ailleurs, oui, avant que je continue, je dirais que c'est aussi la base de la prière. La prière, avant tout, c'est le moment où nous nous posons face à celui qui est le tout autre. L'Ancien Testament souligne beaucoup le fait que Dieu n'est pas comme nous. Dieu, c'est quelqu'un d'autre. Il est quelqu'un d'autre comme une personne, il est quelqu'un d'autre comme la nature. Il est la sainteté dans l'Ancien Testament, c'est l'altérité. Et voilà, nous nous posons devant Dieu, devant l'autre, et nous rentrons en contact avec lui. Nous nous ouvrons à lui et nous sommes dans le face-à-face. Mais pour le vrai amour, il faut aller plus loin. Il faut entrer dans un mouvement, pas dans une situation statique de face à face. Nous voyons très bien que pour vraiment aimer, il faut savoir aller vers l'autre. Et souvent, descendre vers l'autre, se mettre au même niveau que lui, surtout quand celui-là est dans une position plus faible, plus affaiblie que nous. Et l'image... par excellence, c'est le rapport entre Dieu et l'homme. Dieu a créé le monde, donc c'est le créateur infiniment plus grand que la création, et nous voyons que Dieu se promène le soir dans le paradis à côté d'Adam. Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, rentre dans une énorme condescendance. Dieu, dans toute la période de l'Ancien Testament, va constamment s'abaisser pour être aux côtés de l'homme. Pendant tout l'Ancien Testament, nous voyons la souffrance de Dieu qui aurait pu imposer sa justice Mais ça fera périr le peuple, parce que le peuple est infidèle en permanence à Dieu. Et chaque fois, c'est la miséricorde de Dieu qui s'emporte. Dieu va s'abaisser au niveau du peuple, il va le pardonner. Et finalement, il y a le Fils de Dieu même qui va se rabaissir, qui va se faire tout petit, qui va devenir un être humain. Il va, et c'est pas seulement le face à face, il va rentrer à notre niveau. C'est ce que nous fêtons à Noël, le fait que Dieu vient. Благословен градиво имя Господне, béni celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur vient vers nous et nous attendons sa venue. Donc, et Dieu nous appelle à la même chose. Le plus grand commandement qui constitue la base déjà de la loi des prophètes est le commandement d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et quand on demande au Christ, alors, c'est qui mon prochain? Il répond par la parable, comment dire ça? Le parabole du bon samaritain. Et qu'est-ce qu'il fait le bon samaritain? Est-ce qu'il va montrer cet amour par une grande compassion? Est-ce qu'il va parler avec le monsieur? Non. Il s'abaisse à son niveau. Il se met à son niveau et descend de son âne. Il se met par terre. Il met la personne en hauteur. Et il va l'aider. Il agit, il ne parle pas. La Bible ne dit rien sur ses sentiments. Donc le vrai amour, c'est quand nous ne sommes pas seulement face à l'autre, mais nous sommes prêts à quitter notre petit bunker personnel, de nos craintes, de notre confort, et aller vers l'autre à son niveau. Et là, je me rappelle aussi des paroles de Saint Paul, qui dit que je suis devenu tout pour tous, afin de sauver quelques-uns. C'est-à-dire, Saint Paul va s'adapter à chacun dans sa situation, va s'adresser des paroles appropriées à chacun, va se changer pour chacun, afin de peut-être sauver quelques personnes, pour quelques âmes pour Dieu. J'ai déjà dit plusieurs fois, parce que je crois que c'est vraiment très important, que l'amour n'est pas juste un sentiment. Je ne dirais jamais que les sentiments ou les sensations c'est quelque chose de mauvais, pas du tout. Et nous pouvons ressentir l'amour, Dieu merci, bien sûr nous le pouvons. Mais à la base, regardez l'évangile, vous verrez que le Christ parle très peu de nos sentiments. Et certainement quand le Christ va parler de l'amour, il va employer des verbes actifs. Ayez de l'amour entre vous, aimez les uns les autres. Si vous avez de l'amour entre vous, là je serai parmi vous. Le Christ nous donne l'amour comme une action, comme je viens d'illustrer avec la parabole du bon samaritain. C'est une action, c'est pas, et bien sûr c'est un commandement du Seigneur d'avoir de l'amour entre nous. Souvent les gens sont très troublés par les questions, voilà, je suis censé aimer tout le monde, ben, je ne ressens pas de l'amour pour tout le monde, je suis censé aimer mes ennemis mais je ne ressens pas de l'amour pour eux. Et tant qu'ils restent dans cette couche, je dirais, de sentiments, ils vont beaucoup souffrir, parce que l'amour parfois c'est une action, comme le pardon. C'est pas seulement le sentiment que je ne suis plus fâché contre la personne, que je ne lui porte plus de mal dans mon cœur. C'est souvent une action. L'action, la décision de dire oui, quelque chose s'est passé, mais je ne permettrai plus à cet événement de me tenir en otage. Oui, cette personne m'a blessé, mais je ne me laisserai plus guider par cette douleur, par ce ressentiment. Je me libère de ce ressentiment. Peut-être je ressentirai toujours une douleur, ok, mais j'avance. Et c'est très important parfois de se dire que l'amour, pareillement, comme le pardon, comme beaucoup de choses, c'est un choix. C'est un choix, c'est une action, c'est une attitude. Et je pense aussi qu'au moment où nous rentrons dans cette dynamique-là, les émotions vont trouver la place appropriée. L'amour est aussi un don. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons toujours sortir de la poche. Comme le pardon, comme beaucoup de choses. Nous devons travailler et nous devons mettre nos forces là-dedans mais c'est aussi un don de Dieu. Saint Paul, quand il nomme les fruits, les dons du Saint-Esprit, nomme aussi l'amour comme un de ses dons. L'amour parfois nous visite. Nous devons travailler dur dans la prière, dans l'effort, dans l'abnégation de soi, mais c'est aussi quelque chose que nous devons attendre. Pourquoi ? Parce que comme tous les dons que nous avons reçus de Dieu, tous les talents que nous avons reçus, comme l'image de Dieu, comme notre force, tout cela dans la chute a été dérouté. Les pères de l'Église, quand ils parlent de la chute d'Adam, parlent souvent de l'image de Dieu qui n'a pas disparu, mais qui a été déformée. Des forces que Dieu nous a données, que nous n'appliquons plus selon leur vocation originelle. On va louper le but, ce qui est la traduction littérale du mot grec pour le péché. C'est mimetzeli en russe, juste à côté. On a raté le cible. Et ça s'applique à tout. Ça s'applique à la façon dont nous vivons le face-à-face. Est-ce que je suis dans le face-à-face? Est-ce que je suis capable à m'ouvrir à la personne, à m'intéresser ouvertement à cette personne, me dire, tiens, tu es qui? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te fait vivre? Quelles sont tes joies? Quelles sont tes douleurs? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tout simplement, s'ouvrir à l'autre de façon gratuite, c'est très difficile. D'habitude, quand on met à plat les relations que nous avons avec les gens autour de nous, on va y retrouver toujours le donnant-donnant, le commerce, l'échange. Je situe des gens autour de moi en fonction de mes intérêts, parce qu'ils sont gentils avec moi, parce qu'ils peuvent m'apporter quelque chose, parce qu'ils sont jolis, parce qu'ils sont sympathiques, parce que c'est très difficile de rentrer dans la gratuité. Le vrai amour est gratuit, et là je citerai les paroles de Saint Paul à ce sujet. Quand il dit que l'amour ou la charité est longanime, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse, elle ne fanfaronne pas, ne se rengorge pas, elle n'a rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Il y a une grande discrétion dans l'amour, parce qu'il y a un intérêt ouvert vers l'autre, et donc aussi une discrétion, parce que si je m'intéresse à l'autre, je lui laisse aussi le droit de ne pas s'ouvrir complètement à moi, de garder ses secrets, ses douleurs. C'est très important de se rendre compte que comme toutes les capacités de notre être peuvent être malades, et chacun porte le péché de sa manière propre, en chacun de nous il y a quelque chose qui est déformé, et chacun de nous est appelé à purger, à guérir ces déformations de sa manière. Aussi l'amour, le don que Dieu nous a donné d'aimer, peut être déformé. Nous devons nous rendre compte que si je ressens toutes sortes de formes d'amour, ce n'est pas nécessairement l'amour pur, c'est quelque chose qui est une base que personne ne peut nous retirer. Chaque être humain est capable d'aimer, mais il faut travailler. Il faut travailler ce don, et surtout se demander, est-ce que je suis capable d'aimer gratuitement, d'aimer tout simplement l'autre comme il est. Est-ce que je suis capable de m'ouvrir à lui et de se faire aimer? Et là aussi j'ai un deuxième texte que je vais vous lire qui vient de l'épître d'aujourd'hui, de l'épître de premier épître de Saint Jean, où il montre bien l'inégalité de fait qu'on peut aimer sans rien attendre en retour, et même sachant que l'autre ne va jamais être capable de nous rendre ce que nous lui donnons. Et là, Saint Jean parle de Dieu. Alors, c'est le verset 10. Oui. L'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Non, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme propitiation pour nos péchés. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Donc malgré le fait que, et chaque génération du peuple d'Israël, et ensuite nous tous, tellement souvent sont infidèles à l'amour de Dieu, il est venu quand même. Il n'est pas venu parce que nous l'avons mérité. Il n'est pas venu parce que nous y étions dignes, il est venu parce qu'il nous aime. Et le vrai amour, il est gratuit, il est comme ça, il vient comme un don, et nous sommes appelés tous à reproduire ceci, de donner tout simplement sans rien attendre en retour. Et c'est un des grands thèmes de l'évangile, c'est très bien. Et nous devons sortir du désir pour entrer dans l'amour. Ne pas désirer, ne pas vouloir s'approprier, recevoir, mais de donner. Et ça se m'amène, oui, c'est pas par hasard qu'une des grandes œuvres, de la littérature ascétique, l'échelle céleste de Saint Jean Climac, qui consiste d'un certain nombre de degrés par lesquels le moine doit monter pour se purifier, que le dernier chapitre de ce livre concerne l'amour. Il y a tout un cheminement de purification où nous devons à un certain moment renoncer au plaisir pour le plaisir, à la possession pour la possession, où nous devons remettre les choses en place, mettre le spirituel avant le charnel, sans détester le corps, mais mettre les choses à leur place pour finalement, en tout dernier lieu, arriver à l'amour pur. C'est quelque chose, c'est un énorme travail spirituel, personnel, psychologique, et c'est ça aussi qui se recoupe avec un dernier thème que je voulais mentionner avant de rentrer dans une discussion. Et finalement, l'amour humain dans tout ça. Parce que pour l'instant, nous parlons surtout de l'amour comme un don de Dieu, l'amour avec Dieu, l'amour de Dieu vers nous. Mais il existe aussi bien l'amour, pas seulement l'amour chrétien entre les êtres humains, mais il n'est pas seulement l'agape, il existe aussi le eros, l'amour entre hommes et femmes, l'amour du couple. Et je pense que une chose très importante à dire au sujet de cet amour-là, c'est que il fait partie de cette histoire, de Dieu et l'homme. D'abord, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée et qui est une bonne illustration de cette question-là. Il m'est arrivé qu'un ancien ami, même de classe, est venu me voir. Voilà, je vais me marier. Est-ce que tu veux bien nous marier? Oui, bien sûr, j'étais très content. Oui, seulement on a une petite question, une demande. Vous savez, dans l'office de mariage, il y a la lecture de l'épître de Saint Paul, et on n'aime pas beaucoup ce texte. Je ne sais pas si vous connaissez le texte de l'épître qui est lu au mariage. Ben voilà, c'était en plus aux Pays-Bas, c'était deux Hollandais de souche, vous pouvez vous imaginer que ça faisait problème pour eux. Donc ils ont dit, tiens, on a trouvé un autre texte, il est très beau, c'est ce texte que je viens de lire, le 13e chapitre de l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, les hymnes de l'amour, va, tu ne veux pas lire ça. Et j'étais bien embarrassé. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Est-ce que vous connaissez le chapitre 13 de... Alors, je vais vous... Oh. Ah. Alors, oui, c'est... Alors, je peux vous redire en gros le texte qu'on lit au mariage. La première phrase, qui pour moi personnellement est très importante, est... frères, soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Et ensuite, il dit que la femme doit obéir à son mari et que le mari doit aimer sa femme. Voilà. Et dans le contexte d'une société moderne où 90% des présents au mariage ne connaissent rien à la foi chrétienne, vous pouvez imaginer que ça pose des questions. Mais néanmoins, je refusais de lire le texte de 1 Corinthiens. Et est-ce que vous comprenez pourquoi? Est-ce que vous connaissez le texte? Je vais vous le lire, parce qu'il est quand même très beau. Et dans l'Église catholique, il est très souvent lu au mariage. Voilà. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, et je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est longanime, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se fanfaronne pas, ne se rengorge pas, il ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il met sa joie dans la vérité. Il excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne passe jamais, les prophéties, elles disparaîtront, les langues, elles se tairont, la science, elle disparaîtra. Car imparfaite est notre science, imparfaite aussi notre prophétie. Quand donc viendra ce qui est parfait, ce qui est imparfait disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant. Je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous voyons dans un miroir d'une manière confuse, mais alors se fera face à face. Aujourd'hui, je connais d'une manière imparfaite, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Bref, la foi, l'espérance et l'amour demeurent toutes les trois, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Très beau texte. Pourquoi vous pensez que je ne l'ai pas lu au mariage? Ce n'est pas une question piège. Hein. Même c'est... Oui?
Le mariage est un sacrement, parce que ça a été instauré comme ça, je ne sais pas comment, voilà, par quel père, mais que on ne peut pas modifier, si chacun pouvait comme ça modifier, c'est pas possible. Et ensuite, parce que le texte qui est lié au mariage, il donne des indications pratiques à l'homme et à la femme, comment il faut être aussi dans le couple, et non pas comme ça. Très élogieux et très beau, mais plus pratique.
Oui, voilà. Et en effet, il y avait aussi la question de la modification de l'office, que je n'avais pas envie de faire. Mais ce texte-là parle de l'amour, mais de l'amour au sens plus large du terme. Et bien sûr, l'amour du couple peut être incorporé dans cet amour-là, mais ce n'est pas la même chose. Et quand on parle du couple, on parle d'autre chose. Et je pense qu'il est plus important de faire une exégèse correcte du texte qui est lu, qui commence avec la phrase « Soumettez-vous les uns aux autres » et où finalement chacun à sa place est appelé à aimer, à servir l'autre d'une autre manière. Oui, il y a cette phrase que la femme doit être obéissante au mari, et il y a la phrase qui dit que l'homme doit aimer sa femme jusqu'à la mort, et comme il aime son propre corps. Donc, il y a une symétrie asymétrique, finalement. Mais ce qui est important pour moi, c'est que, bien sûr, l'amour entre hommes et femmes dans le mariage fait partie de cette grande histoire de l'amour, mais c'est un chapitre spécifique, quand même. Mais il fait partie, parce que dans ce même texte que nous lisons au mariage, il y a cette parole magnifique de saint Paul qui dit que ce mystère est grand, et il parle du mystère de l'homme et de la femme, il, en français je ne sais pas exactement comment il dit, il s'agit du mystère du Christ et de l'Église. Autrement dit, il y a quelque chose en commun entre le mystère du Christ et son Église et le mystère de l'homme et de la femme. Et ça veut dire que l'amour qui existe entre homme et femme peut être incorporé dans le agape, dans l'amour, et que cet eros que nous associons en général avec l'usage de l'autre, ou la convoitise, ou l'abus, peut être incorporé dans la pureté de l'amour. L'amour conjugal peut être inclus dans l'amour divin, peut être purifié sans cesser d'être ce qu'il est. Dans l'office du mariage, nous, dans une des prières, nous répétons des paroles de saint Paul où il souhaite au couple un lit de mariage chaste. Ça veut dire que la chasteté est compatible avec une vie intime, parce que ce n'est pas du tout un lit où il ne se passe rien. Non, il peut y avoir un amour physique purifié, chaste, dans la soumission l'un à l'autre, dans le service de l'un à l'autre, dans l'écoute, l'attention, la tendresse. Et comme chaque forme d'amour que nous avons été appelés à être purifiée par la cèse, ça peut aussi s'appliquer au couple. Et je pense que très important, très souvent on a l'impression que c'est impossible, l'amour pur entre hommes et femmes. Mais si, je crois que c'est un idéal auquel nous sommes tous appelés dans un grand travail. C.S. Lewis, le grand écrivain spirituel anglais, qui parle du mariage comme la plus grande école de l'ascèse qui existe, et c'est pas faux. Mais je pense que c'est un aspect de l'amour qui est important pour nous tous et qu'il ne faut pas oublier quand nous parlons de l'amour. Voilà, c'était quelques réflexions très rapides et très, très, très superficielles sur l'amour. Comme je disais au début, tout le monde n'était pas encore là. Sur ce chemin-là, nous sommes tous à égalité, clergé ou laïc, théologien ou autre. Nous sommes tous appelés à ce rapport de l'amour. Chacun de nous rendra compte à Dieu face à face pour l'amour qu'il a eu. Parce que c'est comme ce commandement nous a donné sous cette donnée. Et donc je propose qu'on parle maintenant de ce que nous vivons en cherchant cet amour dans notre vie.
Père, j'avais juste cette question. Est-ce que vous avez marié ce couple?
Bien sûr.
Oui.
D'habitude. J'ai fait un sermon, un long sermon, catéchétique, où j'expliquais le sens de l'épître, et d'habitude mes sermons je les fais comme ça librement, mais là j'ai écrit chaque mot sur papier et je le lis tellement que j'avais peur de pas bien dire, parce qu'en plus c'était pas si simple que ça, parce que les parents de la mariée avaient eu la bénédiction de Monsieur Antoine Blum à leur mariage de changer le texte, donc il y avait un précédent. Donc, mais j'ai tenu bon, et non, parce que vraiment, je crois que cette image-là est totalement appropriée. Je comprends, il faut l'expliquer à des gens du dehors, c'est normal. Il y a une tendance parfois dans l'Église à déformer. Vous connaissez la petite tradition russe où la dernière phrase que la femme craigne son mari est exprimée avec grande force. Au moins, j'ai vu ça. Et chez les Grecs, c'est le moment où la femme va mettre son pied sur le pied de son mari. Vous connaissez cette habitude? Chez les Grecs, à ce moment-là, la femme... Voilà. C'est des petites traditions. Mais, donc, et j'ai marié le couple, et ils vont très bien. Ils étaient très heureux à la fin. Donc, parfois, l'amour doit être aussi tranchant. Si vous avez des enfants, vous le savez, si on laisse aux enfants faire tout ce qu'ils font, mais on ne les aime pas. Et si on les aime, on va poser certaines limites. On va les protéger, on va les cadrer, on va les guider, tout en les aimant. Et on peut dire, il faut savoir dire non avec amour. Sinon, dans la vie, on est perdu. Y a-t-il des questions?
C'est intéressant sur le dernier moment que vous avez mentionné qu'il faut savoir dire non avec amour, il faut savoir trancher. Et ça concerne que les enfants ou ça concerne aussi les uns les autres, quoi, non?
Bien sûr.
Dans le couple, dans le.
Ça, oui, je pense que.
Parfois, ça. Je lui dis qu'on est tout récemment marié, voilà, mais ça part pas. On peut avoir cette impression, mais non, ça, il n'y a pas d'amour, il me traite, mais c'est vrai que il faut le faire. C'est ce que j'ai l'impression, je ne sais pas, mais c'est pas uniquement pour les enfants, mais pour les deux.
Mais en général, je pense. Je crois que il est très important de savoir dire non avec la paix dans son cœur. Aussi que quand je me souviens toujours, je grandis dans un village aux Pays-Bas, dans une famille qui n'est pas du tout croyante, et nous avons des voisins qui étaient chrétiens, protestants. Et j'allais jouer chez eux et quelqu'un disait quelque chose, une espèce de l'expression américaine avec Jésus, oh my God, quelque chose comme ça. Et la maman disait très tranquillement, vous savez, moi je crois en Dieu, et ce que tu as dit là, je préfère pas. Elle gardait une paix intérieure, mais elle a dit très clairement ça, non, je veux pas. Et ça m'a marqué à vie, parce qu'elle avait la paix, et elle a dit non. Et il y a beaucoup de situations avec des collègues, avec ceux qui essayent de nous entraîner. On peut être dans un bar et tout le monde dit allez, on prend encore un verre. Si on a la capacité de dire non, merci, ça suffit, sans rapproche, sans agressivité, parce qu'en général, quand on rentre dans le rapport de la négation, pour se défendre, c'est la rage qui monte, c'est l'agressivité. Mais si on arrive de nouveau à le faire gratuitement, tout simplement, avec la paix dans son cœur, on peut faire bouger des montagnes. Et j'essaie d'éduquer mes enfants les jours où ça marche, de dire très calmement, voilà, maintenant ça suffit, devant ta chambre. Nous ne sommes pas dans le relationnel, c'est pas important que je sois fâché, oui ou non, là tu te comportais mal, donc on va t'enlever de cette situation et tu vas te calmer là-bas, et après on verra. Je t'aime beaucoup, mais là, ça suffit. C'est très important, de nouveau. Les parents sont souvent troublés. « Oh, je ne peux pas punir mon enfant parce qu'il ne va plus m'aimer. » Ce n'est pas vrai. J'aime beaucoup mon enfant et du coup, je vais un petit peu le cadrer. Et ce sont des choses... Et les enfants le savent d'ailleurs. Tant qu'ils sentent au fond que vous les aimez, ils acceptent les punitions. Ou les compliments et le reste. Mais oui, dans le couple aussi... Dans l'idéal, chacun va rentrer dedans, ben voilà, avec l'amour parfait, il va s'intéresser qu'à l'autre, se mettre qu'au service de l'autre. Dans la réalité, en général, ça ne se passe pas exactement comme ça. Et on a besoin que l'autre indique parfois ses limites. Il y a une personne et une autre personne, il y a deux vies qui vont se lier ensemble, mais il n'y a pas de la place dans un couple pour 200%. Les 100% de votre vie, vos amis, vos études, vos habitudes, vos petites choses. L'autre, pareil, on va mettre ça ensemble, mais ça ne va pas. Il n'y a pas de place dans un couple pour 200%, donc chacun va devoir faire des sacrifices. Mais il y a des couples où il y a un des deux qui va tout sacrifier, et l'autre, il va prendre toute la place. Et ça peut durer un certain temps, mais tôt ou tard, ça va créer des difficultés, parce qu'on ne peut pas disparaître. Donc, c'est très important parfois de dire à son conjoint dans un esprit de paix, voilà ma limite. Et se heurter à cette limite, je crois, est extrêmement salutaire. Tant qu'on est capable d'écouter, tant que le couple aussi essaie de vivre devant le Seigneur et de se réconcilier. Voilà, mais là c'est... Je parle que de mon expérience à moi.
J'aimerais revenir juste deux secondes. C'est même pas la question, mais c'est juste pour revenir sur cette différence entre les sentiments qui finalement sont un peu profonds, un peu à la surface, et à l'amour qui est plus profonde au sein d'un couple. Bien sûr, ça m'intéresse parce que je viens d'être mariée et du coup il y a tout un tas de questions qui se posent. On aime une personne, il est là, on ressent quelque chose. Mais il est vrai que c'est... Enfin, je ne veux pas dire que c'est pas ça l'amour, mais l'amour, elle est ailleurs. C'est une question de comment peut-être manifester cet amour à l'autre personne, vers où est-ce qu'il faut aller, quelle peut être notre action au sein d'un couple pour travailler pour l'amour. Et une autre question, il se trouve qu'on est confronté à des mauvaises notions, à savoir que l'amour, que le mot amour qu'on utilise dans le langage quotidien ne correspond pas du tout au mot amour.
Oui.
Ne serait-ce que pas une politique de malin pour nous tromper dans la vie.
Oui, bien sûr. Oui, non, il va tout nous présenter. Tout est faussé. Hein. Le péché, souvent, ce sont les choses qui, à l'origine, étaient bonnes et qui ont été déroutées par le malin. Et dans notre langage, il y a plein de mots, de termes qui ont perdu leur sens d'origine et que nous sommes appelés à redécouvrir. Mais je pense déjà que quand on se rend compte que... Pour les pères de l'Église, les émotions ont assez peu d'importance. Ils en parlent peu. Ils parlent de ce qui se passe dans le cœur. Ils parlent de cet enchaînement de la passion, d'une pensée qui vient de l'extérieur, avec laquelle on va jouer ou pas, qu'on va permettre, qui va éveiller certains sentiments en moi et finalement va me pousser à l'action. Et toute la notion de la passion. De la première pensée, la logismos, jusqu'à l'action pécheresse, il y a toute une chaîne. De ça, il parle. Mais des émotions, assez peu, parce que les émotions sont souvent plutôt le fruit que l'origine. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur, et nous pensons toujours que nous prenons des décisions, par exemple, d'une manière rationnelle. En fait, ce n'est pas vrai. Tout le monde qui est dans la vente le sait. Le client va, c'est pas du tout le catalogue ou les critères de la voiture, par exemple, qui vont déterminer qu'est-ce que vous achetez. Il y a quelque chose dans l'émotion, et ensuite, vous allez trouver des arguments pour justifier votre choix. Et en fait, c'est l'homme n'est pas du tout rationnel. Et donc, au moment où on peut se dire, les sentiments sont là, parfois ils seront moins forts, parfois ils sont... Parfois, des couples traversent parfois des périodes de sécheresse. Et c'est là où il faut se dire, l'amour, c'était aussi mon choix. Parmi toutes les personnes dans ce monde, j'ai fait un choix. C'est un pari, c'est une limitation, parce que cette personne-là n'aura jamais toutes les qualités que je cherche. Peut-être j'ai aimé quelqu'un avant, et cette personne gardera toujours une petite place dans mon cœur, soit... Je fais un choix. Parfois dans la confession, je cite Yevgeny Onegin. C'est très beau comme exemple. À la fin, Tatiana, elle avoue, voilà, oui, monsieur Onegin, je vous aime toujours, mais je fais mon choix. Je suis mariée avec lui et voilà, je resterai fidèle à ce monsieur-là. Donc il y a un choix. Je t'ai choisi, toi, et on va travailler ensemble. Et c'est en constituant ce cercle du couple que dans ce couple, quelque chose va se faire. Et c'est pour ça aussi qu'il faut garder ce cercle fermé. Quand on se permet à avoir des sentiments pour tout le monde, il y a comme ça l'énergie de l'amour qui va partir partout, il n'y a rien qui reste pour le couple. Et ensuite, c'est très important que le Christ soit présent dans le couple. Je trouve ça très beau dans l'office du mariage, nous avons au centre l'évangile, la croix, et les couples marchent autour. Voilà. Dieu est là, au cœur. Et le couple doit essayer de vivre devant Dieu, dans tous les moyens possibles. La présence de Dieu dans la maison, le fait, dans l'idéal, que de temps en temps, on va tous les deux se confesser, on va se réconcilier avant, on va aller au restaurant et parler, on va laisser les enfants à une baby-sit et on va parler, il faut entretenir le couple, spirituellement, personnellement. Mais si on se dit, voilà, je fais ce choix, ça enlève aussi un poids. Et c'est là aussi que la grâce peut venir. Parce que l'amour, c'est aussi un don de Dieu, comme je disais. Et je ne sais pas si c'est une réponse à la question, mais... Et tout d'un coup, les émotions viennent. et on se rend compte que c'est plus le fait de juste être amoureux, c'est quelque chose de plus fort encore, une joie beaucoup plus discrète mais beaucoup plus large. Et ensuite, bah, c'est aussi le temps. On vit en commun et de temps en temps on se retourne et on voit que voilà, un an, deux ans, cinq ans, vingt ans, et on peut les marquer ces moments. Donc, mais c'est important que Dieu soit là, que dans le couple, ben, vous avez la chance d'avoir un conjoint qui est aussi dans l'église, donc, et tout qui est pour. Et nous voyons parfois dans les couples mixtes que ça peut être beaucoup plus délicat quand il y a un des deux qui a une vie spirituelle très très forte et l'autre pas du tout, ou même hostile ou indifférent, ou dans une autre religion. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de couple heureux dans cette situation-là, pas du tout, mais c'est plus de travail, et c'est très important de temps en temps de se mettre en question, de dire à l'autre, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, je suis prêt à recevoir, pas comme de la critique, pas comme des disputes, non, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Et confesser, et se confesser, de demander pardon à l'autre, au Seigneur, et le rythme de l'Église nous force de le faire, il y a le dimanche du pardon, et on ne peut pas échapper. Il faut le faire et c'est magnifique. Et ensuite, quand les enfants voient que les parents se réconcilient mutuellement, vont ensemble à l'église, c'est énorme. C'est, voilà. Ça répond à votre question ?
Pour ce point aussi, c'est ce que j'ai lu quelque part, je ne me souviens pas du tout où, mais quelqu'un qui dit que. Le mariage, c'est que les débuts. Et puis on avance. Donc l'amour est quelque chose qu'on construit toute la vie. Donc c'est pas quelque chose qui nous est donné au moment du mariage et voilà, on vit toujours comme ça. Non, c'est quelque chose qu'on faut construire, bâtir, donc toute la vie. Donc cette terre, dessiner, disons, cet paysage de l'amour. Voilà, c'est tout. Et puis ça correspond d'ailleurs avec la. Une autre position, disons, plutôt théologique, où chacun contribue, disons, à la formation spirituelle de ses proches, notamment de ses enfants, de son mari, de son époux, son épouse. Et voilà, donc ça, c'est tout à fait...
Ah oui, c'est la plus grande école, déjà, de la vie spirituelle. Pour ceux qui sont mariés, c'est... Chaque jour est une occasion de grandir, comme disait Louis, quand je suis dans mon bureau en train d'écrire un sermon pendant que ma femme est en train de faire la vaisselle, il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens chrétien. Et c'est très vrai. Voilà, relisons le texte de l'épître du mariage. Qu'est-ce qu'on dit de l'homme ? L'homme est appelé à suivre le chemin du Christ, et qu'est-ce que le Christ a fait pour l'Église? Mais qu'est-ce que le Christ a fait pour l'Église? Il s'est donné jusqu'à la mort. Il a donné son corps à être maltraité. Il s'est fait tout petit pour l'Église. Saint Paul dit, l'homme va chauffer, par sa chaleur, il va chauffer, comme le corps de l'homme va être chauffé par ses vêtements, et c'est comme ça que cet amour qu'il doit apporter, la chaleur qu'il doit apporter dans le couple. Donc voilà, l'homme est appelé à se donner, à se sacrifier pour la femme. La femme est appelée à suivre son mari. Donc l'un dans l'autre, ça peut être une dynamique fantastique, comme ça peut être un enfer sur terre. Nous connaissons tous des couples qui aussi des couples orthodoxes, hein, peu importe, qui se créent un enfer mutuel. Et c'est pour nous pasteurs, c'est toujours très difficile d'être témoin de ces situations-là. Oui.
Alors moi j'ai une petite remarque, c'est que vous dites qu'on fait un choix. Quand on aime quelqu'un, on fait le choix d'aimer et de faire un chemin ensemble. Et ça, c'est, on va dire, un peu plus facile quand on est entouré d'orthodoxes, qu'on n'a que des couples orthodoxes autour de nous, des amis orthodoxes, et c'est un peu ce qu'on voit, ce qu'on est habitué. Mais quand on sort un petit peu de ce monde orthodoxe, par exemple au travail, ou je ne sais pas, dans notre vie séculaire, c'est beaucoup plus difficile du coup, c'est là où il faut se dire comment on peut, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement ne pas oublier que voilà, on a fait un choix, que on a cette idée dans la tête et qu'on doit continuer. Mais c'est très dur parce qu'il y a plein de tentations partout, et puis cette l'amour, on dit aujourd'hui, c'est plus un sentiment, tout le monde.
Oui. Oui. Premièrement, je pense que si quelqu'un aime quelqu'un d'autre, vraiment, ça veut dire qu'il est au moins intéressé, intrigué, ouvert à tout ce que cette personne apporte. Et si dans notre vie, le Seigneur prend une place importante, au moins la personne doit être ouverte à ça et s'intéresser, et au moment où nous rentrons en contact, ça devait assez vite apparaître. Et je connais de très beaux couples où le conjoint a tout simplement eu respect de la vie spirituelle de l'autre, s'est ouvert, a dit tiens, dis-moi, explique-moi, je vais avec toi à l'église, montre-moi. Et parfois le conjoint va rejoindre l'autre dans l'orthodoxie, parfois pas, mais et au moment où l'autre bloque sur certaines choses de nous, ou vice versa, c'est une espèce de première clochette d'alarme, je disais. C'est autre chose si la personne sincèrement n'arrive pas, bien sûr, mais voilà, il faut que cette personne vous accepte comme vous êtes. Il y a une dame dans notre paroisse, son mari l'a quittée, elle était seule pendant quelques années, elle se dit tiens, quand même que je trouve quelqu'un. Finalement, via une agence, je crois, elle a rencontré quelqu'un, et la première rencontre, elle dit bon, il y a une chose que je dois te dire, je suis chrétienne, je prends la Trinité et je vais aller vivre orthodoxe. Voilà. Et parce que pour elle c'est essentiel, et le message était si tu m'acceptes pas avec ça, mais ça va, voilà, ça va pas se faire. Oui, non, c'est beau, hein, c'était.
Et,
oui, le couple marche, il n'est pas devenu orthodoxe, mais c'est un couple, voilà, ils ont trouvé ils respectent, ils la laissent là-dedans. Mais donc la première question est, pour chacun de nous, quelle place le Christ prend dans ma vie, et est-ce que je vais faire mes choix de vie en fonction de lui, est-ce que je suis prêt à dire non à quelqu'un parce que cette personne ne me permettra pas de vivre avec le Christ. J'ai un bon ami qui est diplomate, il a vécu longtemps dans les pays arabes, il est au Yémen, il a rencontré une fille sympathique, mais il m'a dit je ne pouvais pas renoncer au Christ. Et il n'était pas très pratiquant, il n'était pas très église, mais il était face à cette question-là, et il s'est dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas renoncer au Christ pour cette fille, et il a rompu. Ça, c'est la première question. Finalement, quelle est la place que le Christ prend dans ma vie? Deuxièmement, comme je disais, si quelqu'un nous aime, il va nous aimer avec cet aspect de notre vie, et nous pouvons partager. C'est aussi une invitation à dire, voilà, viens voir. Et troisièmement, si le Christ prend une grande place dans ma vie, mais je peux fréquenter les orthodoxes. Voilà, il y a des groupes de jeunes, il y a des pèlerinages, il y a des. Soyons honnêtes, c'est aussi parfois une bonne occasion pour se rencontrer. C'est comme ça que j'ai connu ma femme. Vous voyez, et c'est parce que ce sont d'autres gens qui se réunissent autour du Christ, dans le désir de mettre le Christ en première place dans leur vie. Parce que c'est vrai que très souvent, quand le conjoint n'a aucune vie d'église, c'est dur à maintenir. Et jusqu'au cas tragique, récemment j'ai eu une femme à la paroisse où le mari tout d'un coup est devenu athéiste farouche tout en étant russe et baptisé, et permet plus sa femme et ses enfants d'aller à l'église. Ça existe aussi. Oui.
Tout à fait, au début il y avait l'expression qui m'a raté dans ma pensée. Donc la jeune fille a utilisé l'expression on a choisi demain, on a fait le choix demain. Je crois que on a choisi de faire demain, on peut être toujours dans la grâce. On peut choisir de faire le ménage, par exemple. Ça, oui.
Oui.
Mais choisir d'aimer, je ne le crois pas. Ce sont juste ces deux choses. J'aurais souhaité te dire, je pense qu'il y a quelque chose d'assez subtil dans ça. On est touché par la grâce de l'amour. Pourquoi? Ça, c'est pour l'interprétation de
l'amour. Oui, oui.
Et pour votre interprétation, quand vous avez parlé de votre relation avec vos enfants, ça m'a venu une phrase, on donne que de l'amour. Et c'est le combat de bien et de mal, le Seigneur et de malin. En fait, cette irritation, soit des hommes les vôtres, c'est pas le vôtre. C'est donc l'amour du Seigneur envers vous, cette relation intacte. Каждым дыханием говорите Господа. Dans ce cas-là, vous êtes plein d'amour et vos enfants vous sentent pleinement. Et vous donnez sans aucune difficulté, ça passe. Laisse-moi tranquille, je t'aime beaucoup. Il sent pas seulement 95% de formation passe hors parole.
Ah oui, bien sûr.
Et donc, votre bonté, votre grâce, votre contact avec le Seigneur, il le sent. Oui, il ne sent pas. C'est un moment où il ne sent pas. Voilà,
oui. Je suis d'accord et pas complètement d'accord. C'était tout à fait clair. Mais je pense de nouveau, il y a cette question à quel niveau des choses se passent. Est-ce que ça se passe au niveau de mes sentiments, de mes émotions? Est-ce que si vous dites les enfants le ressentent, ça peut dire beaucoup de choses différentes. Et que les enfants sentent qu'on les aime. En Russie, c'est chustoyo, ça peut être beaucoup de choses différentes. Et je pense que ça nous ramène à la toute première chose que j'ai dit, que l'amour a quelque chose en commun avec l'essence, la nature divine. Et quand il y a de l'amour dans une famille, c'est pas quelque chose que les enfants vont ressentir toute la journée dans leur cœur, c'est comme une base existentielle qui est là. C'est existentiel.
Ils vivent,
voilà. Et ils peuvent même ressentir qu'ils sont adolescents, ils vont crier, ils vont être malheureux, etc. Et quelque part sous la table, ils savent que les parents les aiment. Comme parfois les professeurs sévères. Le professeur est très sévère, et des années plus tard, je me rends compte, en fait, il m'aimait.
Mais en fait, je vous ai cité, je vous l'ai dit au départ.
Oui.
Je t'aime beaucoup, mais ça suffit, c'est ça.
Voilà.
Ça, c'est la surface, ça, mais l'amour est là toujours.
Oui, et justement, il faut faire très attention avec les paroles comme je t'aime, je t'aime, je t'aime, ça peut être très vide. Et quand on le dit, est-ce qu'on rend compte ce que ça veut dire? Mais je suis pas d'accord dans le sens que. On ne peut pas choisir de ressentir l'amour. Et chacun qui est tombé amoureux le sait. On tombe amoureux, voilà. Ça arrive. Aujourd'hui, je sais pas si vous connaissez le père Boris Borinskoy.
On ne peut pas choisir de tomber amoureux, oui.
Pardon ?
On
ne
peut pas choisir de tomber amoureux.
Non. Vous... Oui, c'est ça, oui. Donc dans ce sens-là, bien sûr. Mais tomber amoureux, ce n'est pas la même chose que aimer. C'est une très bonne chose de tomber amoureux, c'est fantastique, mais c'est pas la même chose. Et justement, si on rentre dans le couple en pensant qu'on va être amoureux pendant 40 ans, non, c'est pas vrai. Ce sera fatigant d'ailleurs. Mais on peut choisir d'agir selon l'amour. Quand le Christ parle de l'amour des ennemis, quand il parle de l'amour de l'autre, il ne parle pas de ce que je dois ressentir. Il parle de ce que je fais. Avec lui, c'est le fait que je le tourne l'autre joue, c'est le fait que je ne vais pas répondre par le mal au mal, c'est que il va pardonner ceux qui vont le crucifier. Donc c'est dans ce sens on peut choisir d'aimer, et je pense que la grâce peut venir ensuite pour nous donner l'amour. Récemment quelqu'un m'a raconté, une amie libanaise. Pendant la guerre civile, son frère a été tué. Et les miliciens ont trouvé quelqu'un qui était peut-être le coupable. Ils l'ont amené voir sa mère. Mais regardez, c'est celui-là qui a battu votre fils. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Et elle a dit, celui-là, il y a aussi une maman. Donc elle a, c'est clair qu'elle n'avait pas de l'amour pour cet homme, mais elle a fait preuve d'amour, pas dans ses sentiments, mais dans la réalité. Et là, au Liban, pendant la guerre civile des années 70, c'était, il y a eu des tragédies horribles. Et voilà, cette femme, elle a fait preuve d'amour sans peut-être ressentir de l'amour. Mais donc, c'est justement une question de quoi on parle. Et on doit se rendre compte que l'amour a un sens vrai, que nous oublions souvent, mais qui est parfois là et qui nous touche. Voilà, oui.
J'avais envie aussi de dire qu'en termes de la vérité, je pense à peu près ce que vous aviez dit, ben, on peut choisir d'aimer, c'est-à-dire que c'est surtout vrai si déjà si on s'est marié à l'Église, il y a la bénédiction de Dieu et on ne peut pas, d'accord, aujourd'hui je l'aime, après demain il a fait quelque chose, peut-être je l'aime moins, peut-être il y a quelqu'un, il me plaît davantage, je vais essayer avec lui, quelque chose comme ça. Et que ça, c'est, il faut même écarter cette idée de penser que, voilà, c'est, il faut construire avec celui qui nous a été donné par Dieu, et il faut écarter l'idée d'essayer quelque chose avec quelqu'un d'autre, c'est ça. C'est peut-être ça, non, que tu, je ne sais pas, Vera, ce que tu voulais dire.
Oui, oui, c'est à peu près ce que tu dis.
Oui. En même temps, je serais très réticent avec les recettes qui disent il ne faut pas. Parce que un jour, on se met dans cette voiture, on va conduire, on est dedans. Je me souviens le lendemain de mon mariage, je me suis réveillé en sueur en pensant ça y est. Et je peux bien me dire, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Oui, mais... et vous avez raison. Vous avez raison. Et en même temps, des tentations vont venir. Et c'est à ce moment-là que c'est important de savoir que, voilà, j'ai fait un choix, je vais agir. Et mes sentiments, on verra bien, mais j'ai fait un choix. Et Et c'est sur cette voie que je vais recevoir une bénédiction de Dieu. Mais ça reste du travail et ce n'est jamais acquis. Et ce n'est pas pour rien que nous recevons les couronnes des martyrs dans l'office du mariage. C'est l'amour crucifié, comme dit Saint Philaret de Moscou. C'est l'amour de Dieu. C'est un amour crucifié. Et quand nous nous rentrons dans le couple, nous nous crucifions notre volonté. On doit se faire, c'est comme Jean-Baptiste, on doit se faire plus petit pour que l'autre puisse grandir. Et pour moi, le vrai amour dans le couple, c'est quand je me réjouis dans la croissance de l'autre. Quand je vais aider mon conjoint à se réaliser dans la vie. Parfois même des choses qu'elle ne voit pas encore elle-même, et je vais faire de la place pour que ça puisse se passer. Et ça peut être dans les toutes petites choses, dans le ménage, dans les enfants, dans l'attention, dans l'argent, plein de choses. Est-ce que je fais de la place pour l'autre, pour que lui puisse grandir, et moi je me fais petit pour me réjouir. Saint Jean-Baptiste, il se réjouit de la venue du Christ, de l'époux. Il se réjouit, c'est comme le témoin au mariage, qui se réjouit pour son ami qui se marie. Mais voilà. Il faut se faire plus petit pour se réjouir dans l'autre qui grandit, et mutuellement. Oui.
Excusez-moi. J'ai une autre question qui ne concerne pas du tout l'amour conjugal. C'est l'amour au prochain et plus précisément nos actions qu'on peut faire envers les démunis. Parce que là, nous sommes dans une situation où il y a beaucoup de réfugiés qui vont arriver, il y a énormément de tziganes, etc. Et moi-même, je prends le train Paris-Versailles et Paris-Saint-Martin pour aller aux études. À chaque fois, je vois des personnes, c'est un cas précis, mais après, c'est la question est de l'ordre un peu général pour qu'est-ce qu'on devrait faire. Ce sont des hommes d'une quarantaine d'années, dans une santé apparemment parfaite, qui écrivent sur leur papier à chaque fois la même chose. J'ai deux enfants, je ne travaille pas, donc c'est déjà une manifestation comme quoi je ne travaille pas. Pourquoi tu ne travailles pas? Voilà. Deux enfants, c'est, je ne sais pas prouvé par quelqu'un, mais déjà une méfiance envers son message. Je vois que cette personne, elle se balade dans le train en plus et ils utilisent des procédés psychologiques incroyables. Et surtout les femmes, les véganes, c'est leur regard, etc. C'est très travaillé dès l'enfance. Mmh. Donc il y a ce côté-là. Et de l'autre côté, je suis grandie en Russie. Et en Russie, il y a cette école de on m'a toujours dit de ne te pose pas la question, va donner si tu peux. Et du coup, c'est j'ai deux valences qui j'arrive pas à mettre en équilibre parce que il y a un côté de moi qui ne sait pas cet homme survit vraiment, une autre pensée qui dit qu'il va là pour le pain gratuit parce qu'en Europe on a tout et il fait rien pour son pays et voilà. Et un troisième côté qui me dit tais-toi, juste si tu as de la monnaie dans le lit et ne te pose pas de questions. Donc qu'est-ce qui vous conseillerait que là l'afflux va être de plus en plus grand et on va
oui.
Au final on pourra se créer un petit budget dans le budget de famille comme quoi parce qu'on rencontre des dizaines de personnes par jour comme ça et si on donne à tout le monde
possiblement oui ça me travaille autant que vous donc je peux maintenant donner des belles réponses théoriques mais en fait dans la réalité ça me travaille autant que vous. Il y a une parole du Christ qui me semble très importante. Il y a beaucoup de traductions différentes. C'est une parole assez difficile. Quand il dit qu'il faut être plus rusé que le serpent et plus pur que la colombe. Il y a des variantes différentes. Чище голуба и хитрее змея, мудрее змея. Le Christ très souvent. Il intervient de manière assez paradoxale. Il va dire à quelqu'un, voilà tes péchés, la Samaritaine, bon exemple. Il lui dit, elle lui dit tout ce qu'elle a fait, et ensuite il pardonne. Même à la femme Samaritaine, il va révéler son identité de Messie. Donc, il nomme la vérité sans rentrer dans la condamnation. Et je pense qu'on peut tout à fait observer ce qui se passe. Je peux savoir que le fait qu'il soit dans ce wagon, ça veut dire qu'il a chassé quelqu'un d'autre de ce wagon. Le réfugié qui est ici, il a payé 15 000 euros pour être ici, donc voilà, je peux tout savoir. Sans rentrer dans ces logismos, dans ces pomuslés qui vont me traîner dans la tête, ah, ça veut dire ceci, cela, et je peux faire le choix. Je vais aider cette personne-là. Je peux faire le choix d'aider d'une manière plus concrète, comme l'Église de Grèce en ce moment, elle est là dans les rues à donner dans les camps de réfugiés, à distribuer de la nourriture. Voilà, c'est du vrai. Mais le Christ est très lucide là-dessus. Vous auriez toujours des pauvres. Donc oui, je pense que c'est une très belle tradition russe de se dire voilà, ma main gauche ne doit pas savoir ce que fait la main droite. J'ai une pièce dans la poche, voilà. Mais on peut très bien voir ce qui se passe sans juger, sans condamner. Et on peut très bien se dire, j'ai un petit budget, je vais aider de manière plus ciblée, et toi, désolé. On peut déjà le regarder avec le cœur, on peut déjà le regarder sans le juger, on peut déjà l'observer avec intérêt, on peut dire bonjour. Et il sent aussi. Quand je le vois comme une personne, toi, t'es pas juste une... Déjà, c'est quelque chose. Il n'y a pas de réponse facile. Je sais pas, ça me trouble autant que vous. Mais je pense que cette parole-là est très importante. On peut voir ce qui se passe sans s'infecter. Au travail, combien de fois ça arrive que les gens disent, voilà, un tel, il fait des histoires derrière mon dos, un tel, il ne travaille pas bien, un tel. On peut le voir... Et ne pas s'infecter, ne pas rentrer dans le jugement, ne pas copier le comportement. Et au moment où au moins je vais mettre au même niveau que cette personne-là, celui qui demande l'argent, que je le respecte autant que possible, tout en lui donnant un mot, je pense que je lui donne déjà quelque chose.
Je veux juste partager ce que moi je fais dans ce cas-là. Parce que j'ai eu ce problème, surtout en Russie, j'ai l'impression que j'ai le visage, tout le monde me demande de l'argent. Dans la rue, si je donne de l'argent, j'ai peur que, par exemple, cette personne-là elle va aller acheter de vodka et donc c'est moi aussi qui l'aide de faire du mal. Donc ce que je fais, je partage la nourriture si ouais, j'ai ouais, une pompe sur moi. Ça, je peux donner et je sais que ça, ça ne va pas faire du mal.
Parfois, ça fait rigoler les gens qui les mangent. Moi aussi, je fais ça.
Oui, mais.
Il ne sait pas vraiment est-ce qu'il accepte ou non.
Une fois, j'ai donné. Je n'ai pas la
ça, la demande n'est pas conforme à la réalité parce que même les écrits, genre 1 euro, 2 euros, ou titre restaurant. Parce que moi, ticket restaurant, c'est 7 euros. C'est pas un petit café que tu partages. Même 50 centimes, te regarde. Où est-ce qu'on va comme ça?
Non, c'est ça, tu ne dois pas donner, tu le donneras, mais peut-être tu peux. Une fois, c'était comme ça, il y avait un. Pardon, j'ai coupé la parole. Mais c'est que vraiment, ça m'interpelle. En fait, pareil, il y avait quelqu'un dans le. Je prenais à un moment donné, je me disais, je m'approvisionnais en petit chocolat, et comme ça, je le distribue. Comme ça, je vais vous donner un chocolat, et la plupart des gens, ils sont très très contents, et disent, ah, merci beaucoup. Et c'est un geste comme ça sympathique, mais je ne peux pas donner 2 euros à chacun, ça, c'est si ils donnent. Précisément 2 euros, je ne peux pas. Donc voilà. Et après, à un moment donné, il y avait un monsieur, il a dit comme ça, non, je lui ai dit, d'accord, tu ne veux pas, et c'est tout.
Oui. Mais en fait, ce chocolat, c'est la protection de la sollicitation professionnelle que ces gens-là
c'est pas une protection.
C'est quoi
d'aller vers l'autre en me semble, je n'ai pas la possibilité de donner 7 euros, par exemple, ou 2 euros, tu vois, à tout le monde.
Oui, oui.
Je sais qu'il a une question ici depuis très longtemps.
Maintenant, je suis partagé parce qu'on a pas vraiment de sujet, mais c'est intéressant, je ne sais pas quoi dire. Je peux revenir au couple si vous voulez.
Oui.
Mais c'était très intéressant.
Bon, pas que je parle d'autre chose, c'est ça.
Couple.
Vous avez posé la question. Ça revient un peu à quelque chose. Un peu en nouveau dire. Каждое дыхание хвалит Господа. И ты, когда вы потом, как вот это компиньон, да, вот. И совсем просто. И это приятно вот. Так как вот чувство было пустое. А когда как-то это видели, то вот это видели, вот это держи. Можно, а чаque fois, j'espère, что это en paix avec vous.
Oui.
Déjà.
Oui.
Sinon, chacun de nous un peu différent, l'histoire différente, donc vous connaissez mieux que quiconque, et donc comment vous ressentez quand vous donnez ou vous donnez pas, c'est aussi différent. Vous êtes un enfant de lui comme vous tous, est-ce que vous êtes bien plus ou mieux quand vous donnez pas ou quand vous donnez et quand donc vous faites confiance à lui et donc cherchez chacun de nous peut donner beaucoup de conseils, beaucoup d'avis, et c'est vous quand même, c'est vous
Oui,
j'ai
tout à fait conscience, c'est pour ça que je pose la question.
Oui.
Non, mais il faut pas jouer.
Ça m'arrive une chose aujourd'hui même, dans là où j'habite, il y a vraiment, on peut dire, une bande de Roumains, qui est des Ségans, qui ramènent des petits chiens, des grands, et tout ça, ça c'est vraiment scénarisé, et donc ça se voit. Mais d'abord, ils sont quand même tous différents. Et ça m'arrivait une fois, il y a un moment déjà, il y a un magasin Picard de ce jour-là. Donc je suis passé par le magasin et je donnais à un de ces gens-là un bon cocktail de fruits, comme ça pour décongeler. J'étais surpris que depuis, je vois son visage féminin à chaque fois qu'on le voit, et aujourd'hui même, il m'a pris dans les bras dans le supermarché. Donc, il y a plein de façons subtiles. Effectivement, oui. Le père a dit déjà que c'est le sourire, c'est le contact, parce que c'est pas si facile pour un étranger, pour n'importe quel étranger, pour nous tous aussi. Et, si j'ai bien compris, vous êtes hollandais.
Oui, oui.
Donc, nous sommes tous plus ou moins des étrangers sur cette terre et dans ce pays aussi. Donc, nous sommes tous pareils, à quelque part, même. Il y a des difficultés, mais c'est sourire, c'est fantastique.
Oui.
Donc, c'est voilà.
Et un sourire, je dirais, au même niveau.
Voilà.
Il ne faut pas rentrer dans le schéma où je fais quelque chose pour calmer mon sentiment de culpabilité. Parce que dans ce cas, c'est le commerce nouveau.
Oui.
Et si on arrive à dire non avec la paix dans son cœur, de nouveau, ce qu'il faut. On ne peut pas donner à tout le monde, mais aussi quand ensuite j'arrive à ne pas m'infecter de la réaction de l'autre. S'il accepte, s'il refuse, rester dans la paix. Voilà le geste que je peux faire, le geste de dire bonjour, le geste de dire désolé, je ne peux pas. Et sans me laisser infecter, cette question de plus pur que la plus pure que la colombe et plus innocent que la colombe et plus sage que le serpent, je ne me laisse pas infecter. Je fais ça pour lui et pas pour ensuite ne pas me sentir coupable ou pour ne pas avoir ce mauvais regard ou pour la justice mondiale. Non, là il y a un être humain en face de moi. Imaginez-vous, si vous avez grandi dans cette communauté tzigane, par exemple, avec des codes sociaux tout à fait particuliers, quand vous avez appris dès la petite enfance de demander, ben, ils sont comme ça. Et si quelqu'un le dit tout simplement « Bonjour, toi, être humain, là, j'ai une seconde de vrai contact avec toi », je crois que ça peut laisser des traces. Comme cette maman qui m'avait dit « Ça, non. Je suis chrétienne, ça, non. » Et je pense que aussi le « non » avec amour peut aider quelqu'un. C'est le grand travail spirituel. Là, nous sommes sur le niveau des symptômes, si vous voulez, c'est la phénoménologie. Si je fais le grand travail intérieur de purification, de rapport avec Dieu, de lutte contre les passions, quand j'apprends à écouter ce qui se passe au plus profond de moi, je vais trouver les gestes appropriés. Je vais peut-être trouver la générosité pour donner. Parce que quand même, c'est aussi toujours une très bonne interpellation. Pourquoi j'ai pas envie de lui donner des sous et ensuite je vais acheter un bon sandwich ou je vais au cinéma ce soir. C'est très utile d'avoir ces échanges. Mais voilà. Mais vous aviez une autre question sur le couple.
Par rapport à ce sujet-là, c'est pas facile parce que je pense qu'on vit dans une époque où il y a un détournement des valeurs. De l'évangile, de l'accueil, de la sacralité, de l'accueil de l'étranger. Il y a comme une perversion de prendre les valeurs bibliques, mais de couper la tête de Dieu, de mettre Dieu à la poubelle, et de vouloir exalter et montrer en vitrine une philanthropie, tout en mettant de côté Dieu. C'est pas facile toutes ces histoires d'accueil de Syriens, parce que comment dire, il y a aussi des causes, il y a aussi des choses qui sont dans l'intérêt peut-être de faire souffrir ces gens-là et de créer aussi un chaos, et tout ça au nom, et on va faire culpabiliser aussi des peuples en appelant à ces valeurs-là, alors qu'en fait c'est parfois un détournement. Et moi je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais parfois le malin, le diable, est très philanthropique, il prend l'image de l'humanisme. Il prend l'image de celui qui prend soin des autres. Et en fait, parfois, c'est pour en fait faire une adoration de l'homme. C'est-à-dire que l'homme devient le centre de tout avec des valeurs du prochain. Mais finalement, c'est seulement une glorification de l'homme. Je ne pense pas que je me sois fait comprendre.
Oui, c'est très clair.
Je pense qu'on est vraiment... C'est très séduisant... Et c'est très pervers, moi ça me fait vraiment penser, on pense tous par exemple peut-être à quand on célèbre la liberté ou l'amour au nom de couples homosexuels ou d'adoption, d'action soi-disant d'amour pour que des couples homosexuels adoptent des enfants, etc. C'est toujours au nom de l'amour, de la tolérance, etc. Alors qu'en fait, voilà, c'est pas du tout pour servir l'amour de Dieu et l'ordre que Dieu a donné comme un cadeau. Et c'est vraiment pas facile. Et je crois qu'il y a certaines idéologies, notamment en tout cas dans notre pays, la France, par exemple, depuis la pensée des Lumières, c'est-à-dire que l'homme devient le centre du tout et Dieu n'est plus le centre, où il y a vraiment une perversion comme ça des valeurs. C'est-à-dire que le malin est très philanthropique, mais en fait, c'est pour glorifier l'homme, seul, sans Dieu. Et c'est vraiment un piège, quoi. Et c'est très complexe ces histoires de science. Parce que bien sûr que l'accueil de l'étranger, on ne pourra pas la laisser crever cette famille-là. Mais en même temps, il y a plein de causes et d'idéologies derrière tout ça et de projets.
Oui.
Et c'est vraiment. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on arrive à nous faire culpabiliser avec des choses pareilles.
Mais là aussi, je pense qu'il y a. D'appliquer cette même phrase, on peut très bien observer ce qui se passe sans se laisser infecter. Je ne dis pas que nous devons rien faire, juste observer, juste contempler. Parfois, il faut agir, comme font les certains gens. Mais la tentation est de s'infecter, de rentrer dans le même débat, de lutter contre une idéologie avec une autre, soi-disant chrétienne. Ça n'existe pas, une idéologie chrétienne. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. On peut vivre selon le royaume de Dieu par terre, mais construire le royaume de Dieu sur terre, on ne peut pas. Et on peut se laisser emporter par cette haine, par cette peur, par l'injustice qui nous inflige. Mais si on nous inflige de l'injustice, ça ne donne pas le droit de répondre par la même chose ou de se laisser emporter par le sarcasme, le cynisme, l'esprit politique. Donc là, je pense qu'on est vraiment appelé à observer ce qui se passe et ne pas être dupe. Et le Christ n'est pas dupe du tout. Et il révèle très clairement les complots, le plan des Juifs. Il est très, très lucide, il est très dur. Mais il a l'amour en lui. Et je pense que c'est très important. Et je pense que les voix avec le plus d'autorité morale dans la société aujourd'hui, ce sont les voix qui arrivent à dire la vérité avec l'amour. Donc il ne faut pas se laisser infecter. Oui, on voit très bien ce que se passe, certaines choses qui derrière ce flux de réfugiés, il y a beaucoup de facteurs. Mais on ne peut pas devenir sarcastique à cause de ça, parce que dans ce cas, on rentre dans la mort spirituelle. Voilà, donc je pense que c'est pas une réponse facile, pas une réponse. Mais je pense que c'est très important de ne pas rentrer dans ça.
Parce que la charité, l'hospitalité et le don des aumônes doivent. On est aussi appelé à faire preuve de discernement, je pense. Moi, par exemple, comme celui qui a dit ça, c'est vrai que je n'arrive plus à donner, je ne peux plus donner à des jeunes qui choisissent l'idéologie, la vie de junkie, c'est-à-dire les chiens, l'alcool,
etc.
Je ne peux pas donner. Je sais, parce que je ne connais pas leur souffrance, je ne sais pas à juger, mais je sais que si je donne l'argent, ça va être pour des choses qui.
Oui.
Mais il y a certains apophtèmes qui disent donne et ne réfléchis pas, ou je sais pas. C'est vrai qu'il y a certaines paroles, je sais pas si elles sont vraiment appropriées dans certaines situations. Peut-être que le malin aussi peut prendre l'apparence de la pauvreté.
Oui, il peut prendre toutes les apparences du monde, je pense. Je n'ai pas vraiment des réponses à tout ça. Le Christ n'est pas naïf. Il ne nous appelle pas à être naïf. Il existe un peu, il y a des saints avec une bonté illimitée, et qui, parfois dans une action prophétique, vont donner tout à tous. Mais c'est plus intéressant de regarder l'exemple de Saint Basile le Grand, qui faisait face à une situation concrète dans sa ville et a créé des institutions sociales. Et l'Église peut très bien identifier un problème et s'en occuper. L'Église peut très bien ouvrir des orphelinats, ouvrir des camps de réfugiés, ouvrir des hôpitaux. Donc ce n'est pas nécessairement limité à l'aumône que je donne. Mais je ne dois pas me laisser infiltrer par l'esprit de ce monde. Toutes les questions dans le monde sont éclairées quand je suis dans ce que saint Paul appelle l'esprit du Christ. Il dit, j'ai l'esprit ou l'intelligence, je pense comme le Christ, selon le Christ. Et si nous regardons ces questions selon le Christ, nous pouvons agir de manière appropriée, dans un esprit approprié. Si nous n'avons pas cet esprit-là, ce n'est pas la peine. Donc je pense que là, c'est pour ça que, avant de chercher des réponses concrètes à ces situations-là, il faut chercher d'avoir le royaume de Dieu, et toutes les autres choses viendront à leur temps. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est, jusqu'à quelle heure on continue.
Oui, 9h20.
D'accord. Mais justement, je ne vois pas parce que je n'ai pas de montre. Oui.
Je voulais revenir au couple par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est vrai que ce qui est extrêmement. On vit dans une société qui est extrêmement violente, qui attaque beaucoup l'homme et la femme. Et c'est vrai que je me trompe peut-être, mais je pense qu'on est vraiment dans une des périodes de l'histoire de l'humanité où il y a vraiment une tentation extrêmement forte par rapport à ça. Et je voulais dire que parfois, par rapport au choix, le choix d'aimer, on a tous parfois vécu le fait qu'il faut faire l'expérience de Dieu où en effet on aime, on est amoureux, mais l'autre ne répond pas, quoi. C'est une expérience de non-réciprocité. Et ça, parfois, le Seigneur, il laisse faire pour qu'on vive un petit peu ce qu'il vit, quoi. Le fait que quand ça marche pas, et c'est important de vivre ça. Je pense, quand on se prend un râteau ou que ça marche pas, et quand il y a un échec, c'est important, je pense. C'est ça que je voulais dire. Et aussi, par rapport à la sécheresse dans le couple, c'est vrai que quand on pense que c'est qu'un sentiment qui va rester, c'est un piège, parce que c'est vrai qu'on a besoin du don de l'amour, parce que Dieu renouvelle tout. Et je pense que c'est important de savoir qu'il y a des moments, il y a des heures où on ne ressent rien, il n'y a vraiment rien. Et ça, c'est pas facile, c'est parce que je pense qu'il faut vraiment justement se centrer sur le Christ pour lui demander de renouveler les choses. Et je pense que ça porte des fruits. Il peut nous redonner les yeux de la première fois, le désir de la première fois. Il peut renouveler les choses, ça j'en suis sûr. Et par rapport aux tentations autour, c'est quand même extraordinaire qu'un homme et une femme abandonnent tous les autres hommes et toutes les autres femmes pour se donner à une seule personne. Et en plus, il doit penser à Dieu. En plus, il doit se donner à Dieu.
Oui.
C'est quand même très ascétique. C'est très, c'est à la fois monastique parce qu'il faut oublier Dieu. Et en même temps, on a abandonné toutes les autres personnes, toutes les occasions pour se donner une seule personne, qui en plus, elle, n'est pas Dieu. Et qui a aussi... Et la fidélité. Comme pourquoi il faut être fidèle à Dieu, et pourquoi il faut être fidèle à sa femme ou à son mari, la fidélité, c'est quand même une vertu qui est bonne pour la santé, pour le couple. Et ça portera forcément des fruits. Et le problème de quand on commence à regarder d'autres hommes, quand on commence à regarder d'autres femmes... Donc on commence l'adultère à l'intérieur de notre cœur, ça c'est sûr. D'ailleurs ça trouble, ça on perd d'ailleurs le regard qu'on a sur notre personne aimée. Mm-hmm. Et si on reste fidèle et qu'on combat, moi ça porte vraiment des fruits. Ça peut renouveler le regard et le désir qu'on croit qui s'en va.
Oui. Bien sûr.
C'est ça que je voulais compléter, oui. C'est une question.
Non, mais vous avez raison dans le sens que nous sommes dans la liberté absolue. Avant, il y avait des conventions sociales très oppressantes d'ailleurs parfois, hein, qui maintenaient le couple en place. Maintenant, c'est plus là. C'est nous qui devons maintenir cela. Et je pense qu'il y a deux choses qui me donnent de l'espoir là-dedans. La première chose, c'est que Dieu nous donne une deuxième chance. Dieu pardonne. Si on aime quelqu'un et c'est pas réciproque, mais peut-être on trouvera l'amour ailleurs. Tout n'est pas perdu. Et la chose la plus importante, c'est que l'amour, c'est quelque chose d'existentiel. C'est objectif pour moi que si on va se donner à une personne, à une autre, à un troisième, on va donner un petit bout de moi-même à celui-là. À un certain moment, il n'y a plus rien qui reste. c'est-à-dire les questions de choix, les questions de fidélité, les questions de construire un couple, ce n'est pas un bien ou un mal moral. C'est pas bien, pas bien. Ça veut dire que je vais me construire ou je vais me détruire. Et quand je me limite, oui, c'est en effet c'est de la folie de se limiter à une personne. C'est oui, c'est un sacrifice. Mais en fait, on rentre dans le réel. Il est impossible de vivre avec tout le monde. Il est impossible de se donner à tout le monde. Il faut se limiter. Et les gens qui vivent d'une façon débauchée, d'une façon libre, eh bien, ils finissent par se vider. Ils finissent par se rendre compte que non, ça ne marche pas. Et là, heureusement, Dieu leur donne une chance pour reconstruire quelque chose. Mais l'amour, comme tout qui concerne Dieu, c'est existentiel. C'est pas une question du bien ou du mal. C'est pas une question de sentiment. C'est ce qui me construit. Et c'est que c'est tellement fort les paroles de Dieu. Il n'est pas bien que l'homme soit seul. Il n'est pas bien. Dieu le dit à Adam et ensuite au sujet d'Adam plus précisément. Le Christ répète ces paroles. Même c'est une parole très forte, hein, quand on demande au Christ, est-ce qu'on peut renvoyer sa femme? C'est dans la loi de Moïse que voilà, on peut renvoyer sa femme. Et le Christ dit oui, mais ça a été écrit à cause de dureté de votre cœur, et au début il n'était pas ainsi. Il était dit, il n'est pas bien que l'homme soit seul. C'était ça l'origine.
Et que personne ne sait pas ce que Dieu a vu.
Oui. Et donc je pense que oui, dans la mentalité de notre société, c'est totalement incroyable qu'on se lance dans cette aventure. Mais c'est seulement en le faisant qu'on peut se construire. Et c'est pas pour des raisons idéologiques, c'est pour des raisons existentielles. C'est comme ça qu'on peut se construire. Mais il faut travailler. Il faut que tous les deux travaillent.
Se construire, ça veut dire quoi?
Pardon?
Se construire, ça veut dire quoi en fait? Se construire.
Se construire. C'est réaliser le potentiel que Dieu a placé en nous. Devenir plus pleinement une personne, de développer, devenir un être humain. Je pense que c'est... Et on se construit dans le face-à-face avec l'autre. Par exemple, dans mon cas concret, ma femme et moi, nous sommes dans des situations différentes. Elle a grandi dans l'Église orthodoxe. Moi pas, donc moi je suis ce qu'on appelle en anglais top down, j'ai lu tous les livres, j'ai fait des études de théologie, mais bon, c'est comme ça. Elle, c'est par les racines, donc, et c'est très intéressant. Souvent elle me corrige, je dis oui, toi c'est très bien ta théologie et tout ça, mais regarde. Et c'est vrai, et elle va faire un cours de catéchisme, elle dit oh là là, je ne sais rien, et là je veux l'aider parce qu'elle sait, mais il faut un petit peu organiser. Donc on peut se donner quelque chose. Elle m'apprend quelque chose, moi je lui apprends quelque chose, et finalement on peut grandir tous les deux dans l'Église. Donc ça c'est pour moi un exemple de la construction. C'est très bien qu'on prêtre d'avoir quelqu'un qui ne va pas dire oh Batyushka, 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 mais qui va dire oui c'était très bien ton sermon, et maintenant va faire le déjeuner, quelque chose comme ça. C'est important qu'il y a quelqu'un qui avec qui on est dans un rapport d'amour.
Mais c'est aussi important. Donc, on n'a pas pour l'instant presque pas touché la question de cette rencontre de deux personnes pour se construire ou de choix, et aussi de tomber amoureux. Est-ce que peut-être vous pouvez dire quelque chose sur comment, sur les pas avant de construire ensemble, quelles sont peut-être les difficultés ou quelles sont les choses.
Ouf. Aujourd'hui,
je crois que c'est bon.
Aujourd'hui, j'ai vu le père Boris Bobrinskoy, qui est très très vieux. Il me racontait quand j'étais jeune, je voulais au Mont Athos et devenir moine, mais mon père spirituel m'a dit tu vas rentrer à Paris, après on verra. Et là, j'ai eu un grave accident. Je suis tombé amoureux. Et voilà, il a rencontré sa femme. Ben, Il y a une chose que je dirais, ça a un lien avec ce que vous avez dit. Je pense que c'est très important d'aller en tâtonnant. Très souvent, poussé par la liberté extrême, on se jette tout de suite dans les bras l'un de l'autre. Et ce n'est pas une question de morale, c'est que au moment où on rentre dans les rapports intimes, ça prend une telle place qu'il n'y a plus de place pour cette recherche délicate. Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'intéresse? La recherche, le dialogue, l'attente, le doute, le questionnement, les nuits sans sommeil. Et je pense que c'est très important de découvrir la personne en tant que personne. Bien sûr, c'est une jolie fille ou c'est un beau garçon, c'est sympa. Et là, de nouveau, quand nous faisons des erreurs, Dieu est là pour nous aider, pour nous pardonner, pour nous donner de nouvelles chances. Ce n'est pas une question de ce qui est bien ou qui est mal, mais il faut se dire, est-ce que je suis bien avec cette personne? Est-ce qu'on s'amuse ensemble? Est-ce qu'on se découvre? Est-ce qu'on peut se disputer et se réconcilier? C'est très important de parler, très important de se promener, de se poser des questions. Et non, je n'ai pas de recette comment trouver un amoureux. Ça arrive, on ne choisit pas.
Il y a quelque chose qui freine très souvent, c'est la crainte.
Ah, oui.
La crainte de tâtonner. On a souvent la volonté ou le désir, donc de tomber juste du premier fois, juste sur celui qui va pour toute la vie. Donc on n'a pas cette idée. Donc je sais pas pourquoi.
Ou pendant 5 ans, on ne va pas se marier parce que je ne suis pas sûr que c'est lui.
Ou l'autre. L'autre extrémité, oui, c'est. Et ça cause beaucoup de problèmes. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis qui. Ou une extrémité ou l'autre.
Oui.
Finalement, celui qui de l'autre extrémité qui a duré 10 ans, je crois, cet été, il s'est marié.
Et je pense que ça recoupe un petit peu ce que vous disiez avant. Et, on se fait trop grand. Nous voulons une vie glorieuse, fantastique. Ça concerne aussi la spiritualité. On a lu quelques livres sur les pères de l'Église et donc on veut tous être dans la lumière incréée. On veut tous être amoureux tout le temps. On veut ça. Et c'est le monde autour de nous qui le dit. Hein. Il faut vivre des expériences. Et je pense qu'il faut se faire un petit peu plus petit. Et je raconte parfois des gens d'une grande humilité qui vivent mariage avec du pour et du contre, qui ont, le travail, c'était peut-être pas le travail de leur rêve, mais ils y sont, ils le font, ils avancent dans la vie, dans la simplicité. Et il faut accepter le fait que, à un certain degré, le mariage, c'est toujours, comment dire, cat in the bag. On ne sait pas, il y a un tas de choses, peut-être il va tomber malade. J'ai une paroissienne dont le mari, après 40 ans, à l'âge de 40 ans, elle a développé une maladie génétique absolument horrible et elle s'occupe de son mari invalide. Oui, c'était pas prévu. On ne sait pas. Et bien sûr, vous devez, on doit être responsable. On doit se poser des questions, mais il faut pas. On peut rester dans la crainte tout le temps parce que peut-être ça va pas être l'idéal. Mais non, ce ne sera certainement pas l'idéal. Et certainement, il faut se lancer. Il faut vraiment se lancer et se dire, à la grâce de Dieu. Et vous savez, dans l'office de l'ordination, il y a cette phrase magnifique sur le Saint-Esprit qui va rajouter ce qui manque. Vous voyez, et c'est dit au sujet de celui qui est ordonné, mais en quelque sorte, ça s'applique à nous tous. Il y a aussi, tu te lances dans quelque chose, on s'engage, on dit oui, c'est celui-là. Et on ne va pas dire c'est celui-là le parfait, non. Est-ce que, il y a cette question au mariage, est-ce que tu prends pour femme, pour homme, celle-là que tu vois devant toi? Et tu dis oui, et à la grâce de Dieu. Donc, si si je abandonne aussi ce désir d'avoir cette vie glorieuse, énorme, et quand j'accepte la vie qui m'a été donnée, je vais découvrir une gloire, mais une gloire beaucoup plus discrète. La gloire de la kénose, du fait de se faire plus petit. Donc je pense que ça, c'est très important, de ne pas trop s'attendre à trop, et pour les sentiments, et pour le conjoint, et pour tout. Il y aura toujours quelque chose qui manquera. Toujours. C'est pas possible qu'on puisse trouver la femme avec qui on peut et parler, et danser le rock, et avoir une vie amoureuse fantastique. Non! Il y a toujours quelque chose qui manquera. Et le Saint-Esprit, il va combler ce trou.
Mais si ça manque, on peut demander à Dieu de faire quelque chose.
Voilà.
Bon, je pense juste pour dire ce que j'ai dit.
Oui, oui.
D'accord. J'ai écouté avec attention, avec tout respect que j'ai pour cet enfant de Dieu, et je l'ai suivi aussi.
Oui.
C'est le dialogue de la terre. Donc, c'est pas idéal. C'est, on est, donc, pas comme je veux dire, comme je décide, moi, je. Moi fermé, moi sous erreur, surtout à lui, oui. Et donc à tous les êtres. Donc ça ne sera pas idéal, mais ça ne sera jamais comme moi je le décide.
Et peut-être c'est pour ça que ça sera idéal,
voilà.
Mais pas mon idéal. Mais
il faut comprendre encore que c'est comme ça, que ce n'est pas moi qui décide. En nous, on dit tu vas aller. Tu prends la gueule, t'as beaucoup de choses pour la gueule.
Oui.
Est-ce que vous comprenez complètement le douce, non?
Oui, oui.
D'accord. Dans ce cas-là, ça me fait très plaisir de faire vos connaissances parce que mon meilleur ami est hollandais.
Ah.
Belge. Et il y a donc une âme hollandaise, ça c'est sûr, parce que c'est vous ressemblez à tel point que.
On verra après si c'est un compliment ou pas.
Il est aussi très croyant.
Merci.
Et je me sentais très profond de parler tout juste. À tel point que quand il y a une vingtaine d'années, nous avons prié ensemble chez moi. Il est en plus de 1,97
m.
Il mettait sa main sur la lien et je sentais le Seigneur, un peu d'ambassadeur qui descendait à moi. Donc, maintenant, si vous permettez, vu que vous comprenez, donc c'est sur. Messieurs, vous êtes français d'ailleurs, n'est-ce pas?
Oui.
Je suis français, donc hollandais, on est aussi français. Peut-être un seul. Mais donc, ce que. Si vous permettez, sans doute ça va faire différence pour tout le monde, même peut-être pour vous, je ne suis pas sûr que pour vous, il n'y a pas d'un bleu blond, un peu sérieux. Plus taillot. Voici, il y en a eu. Il y a des choux, et значит, il y a le bleu, il y a le bleu, et значит, il y a le jaune. Je ne suis pas sûr que M. Kanki, quand il a parlé de l'intention de se abandonner de tous les autres femmes, c'est pour moi c'est un peu différent. Il y a des êtres asexués quelque part, ni deux hommes ni deux femmes. Et quand la grâce d'amour touche deux êtres, voilà, c'est ce moment-là quand il s'arrête et il oublie tous les autres. Et c'est à ce moment-là qu'on s'approche véritablement, on monte vers le type d'un homme ou d'une femme. Ouais, excusez-moi.
Non, je suis d'accord. Et en même temps, dans ce mouvement, l'amour homme-femme, avec tout ce que ça inclut, peut aussi être intégré. Et je pense que c'est moi, venant d'une culture calviniste, je pense que finalement, ce qui m'a attiré dans l'orthodoxie, c'était le fait que tout peut être inclus. Tout doit être purifié, transfiguré, mais ça rentre dedans. Tandis que dans la tradition occidentale, très souvent, quand même, l'image de l'amour homme-femme était comme quelque chose tolérable au maximum, mais pas quelque chose. Pour la vraie vie spirituelle, il faudrait quand même faire autre chose. Et non, il y a cette notion de lit conjugal chaste, d'amour intime du couple qui peut être intégré dans le mystère du Christ. C'est incroyable. Notre corps peut être partie intégrante de la vie spirituelle avec Dieu. Et c'est beau que vous dites sur ce fait qu'on se touche. Il faut faire des choix, tout en sachant qu'on peut se tromper. Et surtout, voilà, c'est comme le Christ dit, pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Et très souvent, je me suis créé un idéal, et en fait, l'idéal que Dieu a préparé pour moi est beaucoup mieux. Et je vais me retourner au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans de mariage, et me dire, oh là là, c'était pas du tout ce que je pensais, c'est beaucoup mieux, c'est mieux. L'année prochaine, j'espère fêter les 20 ans de mariage, et ça va être une bonne occasion de retourner, de regarder en arrière, de fêter, de remercier le Seigneur. Par exemple, avec ma femme, pendant 12 ans, on n'a pas eu d'enfant. Voilà, ça venait pas. Et 12 ans. C'était long, c'était très long. C'est d'ailleurs une épreuve pour le couple, je peux vous dire, c'est pas facile. Et on s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire. On a même fait toute la procédure d'adoption. Donc, quelque part dans le placard, j'ai un papier pour montrer à mes enfants que je suis approuvé comme parent. Et au moment où on a dit non, ça marchera pas. Et l'adoption, c'était compliqué, tout est compliqué. Voilà, non. Donc, on va vivre autrement, on va servir le Seigneur différemment. Et ben voilà, ils sont venus. C'était pas prévu, on avait notre projet à nous, et c'est au moment où on a abandonné notre projet à nous que Dieu est intervenu. Et ça reste mystère, il y a d'autres couples qui n'ont pas eu d'enfants, et ils n'ont pas eu du tout, on a eu de la chance aussi, mais vous voyez, je pense qu'il faut vraiment, je suis complètement d'accord avec vous, on rentre avec un certain but, un certain idéal, et parfois il faut le laisser tomber et voir qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous. Et c'est autre chose, parce que quand je vais me marier avec quelqu'un, je me marie avec un mystère. L'autre, c'est un mystère. Moi-même, je ne me connais pas jusqu'au bout. L'autre, je ne connais pas jusqu'au bout. Et je ne le connaîtrai jamais jusqu'au bout. Donc, la chimie qui va se développer, ça va être une belle surprise. Et si moi, mon but dans la vie, c'est de laisser le meilleur de cette personne sortir et grandir et me réjouir, là, oui, quelque chose va se passer. Et c'est très important quand même que l'Église soit là, pas comme une institution pour cadrer, mais comme le laboratoire dans lequel ça se passe. Et où de temps en temps aussi, on met le thermomètre spirituel dans le couple pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Voilà.
On dit parfois que celui qui est devant toi, donc ton époux, c'est ce que tu révèles de lui. Donc ça dépend beaucoup, beaucoup de toi, ce que tu fais, comment tu agis sur lui.
Oui. Ah oui, c'est une énorme responsabilité. Et, non, c'est là où tout se passe. Pas tout, mais c'est très important.
Est-ce que je peux peut-être proposer de ceux qui veulent partir pour qu'on ne les perde plus, et puis ceux qui veulent rester, on peut prendre encore du thé et rester un tout petit peu encore quelques... C'est pas Et aussi, je voulais vous rappeler que demain, pour ceux qui veulent, demain, il y aura une liturgie à Chartres. Donc, si quelqu'un veut, on se réunit à 7h40 à la gare de Montparnasse pour pouvoir y aller en train. Et puis aussi, je vous invite tous pour des prochaines rencontres, le vendredi prochain, ce sera Monseigneur Nestor qui va parler de Vera, de la foi. Donc, je pense que ce sera aussi intéressant. Comme ça, on a...
Deuxième partie.
Oui, Nadiège, on n'a pas encore. Bon, peut-être on va...
On espère.
Je vous invite aussi de participer dans l'organisation. Donc, si quelqu'un souhaite de participer dans l'organisation, ça sera vraiment bienvenu et ça nous apportera beaucoup d'aide parce que pour l'instant, on est un peu... On est Nastya qui est je ne sais pas, il est où là. Et il est là, et puis l'argent et moi, et c'est à peu près, c'est tout. Donc s'il y a quelqu'un qui peut nous apporter de l'aide, ou s'il y a Tanya qui a accepté de faire la conférence deux fois. Mais donc, vous êtes toujours bienvenus, et ce sera très bien si vous apporterez aussi vos idées, et comme ça on va partager l'amour avec tous les autres, l'amour de Christ avec tous les autres qui viennent.
Merci, j'étais très heureux d'être avec vous, vraiment. Je suis beaucoup touché. Merci.
Merci.
Oui,
oui.
Oui.
Достойно ли всякого истину?